Vous êtes à l'Institut des Libertés, où j'ai le plaisir de recevoir Jean-Baptiste Noyac.
Bonjour.
Bonjour. Et là, vous êtes un être un peu spécial, c'est-à-dire que vous avez décidé de consacrer, on peut dire, votre vie, à essayer d'aider les enfants dans les zones rurales pour qu'ils aient une éducation de qualité, quoi. Et vous avez maintenant déjà trois collèges ?
Oui, trois collèges et une école primaire.
Et une école primaire, et les résultats sont ?
Écoutez, ils sont plutôt bons. En tout cas, pour l'instant, on est assez encouragé là-dedans, puisque on a des élèves qui arrivent en début de primaire avec un niveau inférieur à celui des REP+, donc c'est le niveau le plus faible mesuré en France, et qui sortent avec un niveau supérieur à la moyenne nationale. Ça, c'est en fin de primaire. Et puis au collège, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est des élèves qui arrivent, ils sont dans les 10% les plus pauvres et ils ont les mêmes notes aux épreuves écrites du brevet que les 10% les plus riches. Donc, on a réussi à mettre en place des outils qui fonctionnent, quoi.
Des outils qui fonctionnent. Alors, parlez-moi de ces outils qui fonctionnent, parce que pourquoi vous réussissez là où les autres échouent ?
Écoutez, ce qu'on essaye de faire, c'est que on veut d'abord offrir les meilleurs outils pédagogiques à ceux qui, selon nous, en ont le plus besoin, c'est-à-dire des enfants qui sont dans des territoires qui n'ont pas du tout accès aux innovations pédagogiques, aux dernières ou aux outils qui coûtent cher aussi à mettre en œuvre. Je pense aux petits effectifs, à un suivi personnalisé de chaque enfant, à des professeurs qui sont aussi éducateurs, donc qui vont passer du temps avec les élèves, qui vont les connaître, qui vont apprendre à adapter aussi leur.
Oui, Monsieur Gérandin avec Camus, quoi.
Exactement, exactement. Il y a de ça en tout cas une vraie exigence pour chaque enfant, et je pense que c'est ça qui aujourd'hui
et les enfants
est recherché. Ouais, les enfants le sentent et les enfants aussi le veulent en réalité. Je pense que il y a un vrai appétit pour l'exigence, mais il faut que cette exigence elle vienne d'un éducateur dont on sent qu'il est engagé pour nous, qu'il nous connaît, qu'il nous apprécie, qu'il connaît aussi nos talents. Et donc c'est ça qui est tout l'enjeu, c'est à la fois de recréer du lien et donc de se rapprocher des enfants, de se rapprocher des familles aussi, c'est essentiel parce que on intervient dans des territoires où des familles ont aussi décroché de l'école autant que leurs
enfants. Alors quand vous parlez des familles, là ça m'intéresse beaucoup ce que vous faites, quand vous parlez des familles, est-ce qu'il y a beaucoup de gens issus d'immigration ou est-ce que c'est des Français qui sont simplement été virés parce qu'ils sont dans la campagne, quoi ?
Il y a de tout, mais on est dans des territoires qui sont des territoires ruraux, donc c'est pas des territoires où il y a... Moi j'étais avant dans un réseau d'écoles qui intervenait en banlieue, il y avait beaucoup plus de sujets liés à l'immigration. Là c'est moins le cas, il y en a quelques-uns, mais c'est pas l'essentiel de nos élèves.
Donc vous voulez dire qu'en France, il y a une partie de la population dont on peut dire qu'elle est d'origine française, qui était laissée complètement de côté dans l'éducation parce qu'ils étaient pas au bon endroit, quoi, ou parce qu'ils étaient pas dans les bonnes familles.
Je sais pas si c'est réellement pour des questions culturelles, mais en tout cas ce qui est certain c'est qu'on a concentré les moyens dans de l'éducation prioritaire notamment dans les grandes villes parce qu'il y avait dans ces territoires-là un vrai enjeu de visibilité aussi des problèmes, c'est-à-dire qu'en fait depuis Paris ben les problèmes les plus immédiats ce sont ceux des grandes métropoles et des banlieues qui les entourent, et donc on a un peu oublié finalement tout un tas de territoires, notamment les petites villes, c'est-à-dire que les zones rurales très peu denses ont pas de très grandes difficultés scolaires, par contre les petites villes ont des problématiques sociales et culturelles qui se rapprochent en réalité des difficultés des grandes agglomérations, mais qui ne bénéficient pas des moyens, notamment de l'éducation prioritaire. Ces moyens-là, ils sont affectés notamment autour d'un critère qui est l'appartenance à un QPV, un quartier prioritaire de la politique de la ville. Donc par nature, si vous voulez, ces territoires en sont exclus. Donc il y a un vrai enjeu, à mon avis, de justice et d'égalité, pour le coup, d'égalité en droit, de remettre tout le monde sur un pied d'égalité et de permettre à chaque enfant de bénéficier de ces moyens-là sur un critère objectif qui sont les résultats scolaires.
Et alors, je vais vous poser une question assez personnelle là. Qu'est-ce qui vous a amené, vous, en tant qu'individu, à vouloir faire ça ? Parce que c'est un peu un sacerdoce, si j'ose dire. C'est presque une vocation.
Une vocation, sans doute, ouais. Moi, il y a eu plusieurs étapes. La première, c'est que à l'âge de 15 ans, j'étais en échec scolaire et je me suis retrouvé un jour.
Ah, vous faites plaisir là, parce que moi, j'étais en échec scolaire longtemps aussi.
C'est vrai.
Oh là là. Ah, bah, j'ai redoublé ma quatrième, ma troisième et ma première. Si vous voulez.
Ah, bien joué. Moi, c'était la seconde. J'étais en.
Mais on redoublait plus à mon époque.
Ben moi, on m'a demandé de redoubler, mais si possible, pas dans l'établissement. Donc, j'ai dû aller chercher un autre établissement et je me suis retrouvé à frapper à la porte d'un internat. Et donc, je suis allé au rendez-vous avec ma mère. Et puis, au bout de quelques minutes, le directeur a demandé à ma mère de sortir de la salle, de la pièce. Et puis, il a dit, ouais, c'est à Jean-Baptiste que je veux parler. Il a pris mes notes. Il a lu les notes qui étaient catastrophiques, comme vous pouvez vous imaginer. J'avais 2,5 de moyenne en maths, 7 de moyenne en seconde. Et il a dit, bon, ça, c'est tes notes, mais ce qui m'intéresse, c'est qui t'es, toi? C'est quoi tes passions? C'est quoi tes talents? C'est quoi tes rêves? Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et je m'attendais pas du tout à ça. Honnêtement, je pensais pas qu'un éducateur, un directeur, en tout cas, pouvait s'intéresser à ça. Et ça a été un déclic. Et après, il m'a fait rentrer, au lieu de me faire redoubler, il m'a fait rentrer en première ES. Il m'a dit, bon, S quand même, avec les notes de maths, c'est pas possible. Et donc, il m'a fait rentrer en première ES. Et après, j'ai repris pied dans les études. J'ai fait après du droit, une école de commerce et tout. Mais ça a été vraiment un premier déclic.
Et c'est ça qui, dans le fond, vous a dit, je veux être cet homme à nouveau.
Je sais pas si, non, je l'ai relu après. Mais de fait, en tout cas, j'avais toujours eu au fond de moi la conviction que, un éducateur pouvait changer la vie d'un gamin. Et ensuite, après, j'ai bossé chez IBM, je trouvais pas de sens à ce que je faisais. Et j'ai rejoint un réseau d'écoles qui faisait à peu près la même chose que nous, mais dans les zones urbaines sensibles, dans les banlieues. J'ai travaillé là-bas pendant plusieurs années. Je me suis occupé du développement de ce réseau. Et puis j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Christophe Guilluy, qui est le géographe que vous connaissez bien, et qui a été aussi un autre déclic parce que en fait il a mis des mots sur des trucs que je percevais. Moi j'ai grandi toute mon adolescence dans les champs de betteraves autour de Roissy, et donc ce qu'il disait de la jeunesse, de ce qu'on appelle la France périphérique, en gros c'est le gars qui a vu venir les gilets jaunes 10 ans avant, quoi. Et du coup, il a donné une réalité collective à un truc que je percevais comme, de manière éparse, quoi.
Comme individu, vous l'aviez senti, mais vous n'y étiez pas senti que vous y en avez d'autres.
Oui, c'est ça. Il a mis des mots là-dessus, et en fait, les gamins qu'il décrivait, c'était mes potes d'adolescence, mes potes du foot. Et donc, je me suis dit, bon, il y a beaucoup de gens qui s'engagent en banlieue, mais pourquoi pas essayer de faire la même chose, mais en zone rurale. Donc, c'est comme ça que je suis parti.
Et vous avez été le premier?
Oui, alors je connaissais pas d'autres projets pour les zones rurales avant. En fait, j'ai pris les stats du coup de décrochage scolaire et de chômage des jeunes dans ces territoires-là, et on a pris la région qui était la plus touchée, qui était la Picardie. Dans cette région, le département le plus touché, qui était le département de l'Aisne, et au sein de l'Aisne, il y avait deux villes, La Fère et Hirson, qui étaient les plus touchées. Donc, on s'est installé à La Fère avec une équipe de 4 jeunes profs. On est allé je l'ai rencontré le maire, il m'a accueilli d'ailleurs très chaleureusement, et donc on s'est installé dans les locaux d'un ancien Lidl qui avait fermé. On a retapé du coup le Lidl, on a mis des Algeco sur le parking, ça a fait des classes et une cour de récré. Et donc il y a dès le début ce côté très très artisanal, très très entrepreneurial.
Alors je vous arrête, mais là, d'habitude l'éducation c'est un machin qui est surveillé, contrôlé et tout, et l'éducation classique, si je veux dire l'éducation nationale, vous a laissé faire là?
Oui, on remplissait toutes les exigences, c'est-à-dire qu'on avait des profs qui avaient au moins un master dans la matière principale qu'ils enseignaient, alors que l'exigence, je crois que c'est uniquement une licence. On avait, on remplissait toutes les normes de sécurité, on a fait tous les trucs de manière très très bordée. On enseignait le socle commun des connaissances. On nous a laissé faire. C'est exactement le terme, parce qu'au début il y avait un peu de réticence, qui peut se comprendre d'ailleurs. Enfin, qu'il y a peu de.
Il y avait pas des lycées ou des écoles dans le coin qui étaient un petit peu énervées.
Au départ, bon, on a été plutôt ignoré. J'ai essayé pendant toute la première année de rencontrer la principale du collège public d'à côté, qui a pas voulu me rencontrer. À la fin, elle m'a quand même reçu à la fin de la première année. Et donc, l'entretien a duré 12 minutes. J'ai présenté ce qu'on faisait. J'ai dit que je voulais qu'on travaille ensemble, qu'ils connaissaient mieux le territoire que nous, qu'on était complémentaires, qu'on pouvait prendre des élèves et qu'ils pouvaient les aider et tout. Et puis, elle m'a laissé parler. À la fin, elle m'a dit, bon, écoutez, monsieur, c'est très simple, mais un élève, s'il est chez vous, il est pas chez moi. Donc, que vous voulez ou nous, on est en concurrence. Donc, au revoir, monsieur. Ça s'est terminé comme ça.
Ah oui. Et on est en concurrence. Donc, retrouver avec la concurrence, pour les enfants, c'était une mauvaise chose.
Manifestement. Ouais. Ça, c'était la première année. Après, la personne a changé. C'était un autre chef d'établissement, et il a été beaucoup plus intéressé par ce qu'on faisait. Il est venu visiter notre école. Il est venu visiter avec son directeur des SECPA et tout. Et maintenant, ça se passe très bien. Il y a des bonnes relations avec les écoles. Donc, en fait, c'est assez naturel que quand le truc démarre, il y a un peu de réticence, un peu de crainte. Mais ensuite, je dirais
Si on aime les enfants, on veut leur bien.
Et puis voilà, le bien, ça se voit. S'il y a plein de familles qui disent que leur enfant a été sauvé ou changé, en tout cas par cette école, que
vous avez des enfants?
Ouais. Et alors donc du coup, alors j'en avais pas en ouvrant l'école, mais j'en ai eu depuis. Mais c'est vrai que j'ai mieux perçu d'ailleurs en ayant des enfants, parce que bon, il y avait des gens qui la première année vraiment, déjà moi j'étais pas sûr que des gens viendraient, s'intéresseraient au projet, parce que je me disais bon, il y a quand même un saut dans
le
vide.
Je me souviens, vous l'avez lancé quoi, il y a 6-7 ans ça, non?
Il y a 8-9 ans, 2017. Septembre 2017. Et il y avait quand même un vrai saut dans l'inconnu. On pense, donc, on voulait surtout éviter le délit d'initié, c'est-à-dire d'attirer les CSP+ du coin qui se diraient ah bah c'est bien une école pas chère et tout. Alors que ce qu'on voulait, c'est vraiment toucher les enfants de milieux les plus modestes. Donc, on est dans un endroit où déjà il y avait quand même assez peu de CSP+. Et puis surtout, on a commencé par un collège aussi parce qu'au collège tout le monde est un peu à égalité, tout le monde voit les difficultés. Alors qu'au primaire c'est plutôt les familles culturellement favorisées qui les voient. Et donc on a commencé comme ça. Et de fait, on a eu la cible, on a touché la cible qu'on voulait toucher, on a eu ces familles-là. Et moi, c'est vrai que je ne m'attendais pas à la gratitude qu'il y avait de la part de ses parents qui me disaient mais vous avez sauvé mon gosse. Et je voyais ses parents en larmes. Maintenant, je comprends. Maintenant que j'ai des enfants, je comprends ce que c'est que pour vous dire un exemple, j'ai eu un papa, c'était le boucher d'à côté. Son fils était harcelé dans l'école où il était, et ça faisait des semaines, des mois qu'il alertait la direction, rien ne se passait. Et du coup, il avait été obligé un jour, alors par la fenêtre, il voyait son fiston se faire, enfin par la grille, pardon, il voyait son fiston se faire taper dessus dans la cour. Il était obligé de sortir son portable et de filmer plutôt que d'intervenir pour pouvoir avoir une preuve pour qu'enfin les choses soient prises en compte. Et donc, il était en larmes, ce papa. Et donc, je me suis rendu compte de la détresse de ces familles qui ne sont pas entendues, ne sont pas prises en charge et sont un peu captives, en fait.
Ce que vous dites, c'est effrayant parce que... Vous avez raison, il n'y a rien de pire pour des parents que de ne pas pouvoir aider, porter, améliorer leurs enfants et tout. Et si ils ont une espèce de truc mou en face qui répond pas, ils se sentent complètement démunis parce que ils savent pas quoi faire. Et puis ils sont. Donc c'est en effet ce que vous dites est tout à fait touchant. C'est-à-dire quand vous rendez service aux gens un petit peu de façon désintéressée, allez, appelons-le, c'est fou comme ils vous sont reconnaissants.
Ah oui, vraiment. Mais aussi. Comment dire, j'ai pas l'impression que, bien sûr, enfin, on a des profs qui sont hyper engagés, qui font un très bon travail parce qu'ils sont très exigeants, mais je veux dire, c'est un travail qu'on devrait pouvoir faire normalement. C'est-à-dire que ce qui est terrible, c'est qu'en fait, quand on entend, par exemple, que des enfants sont victimes de violences et qu'en réalité, c'est les agresseurs qui vont qui restent dans l'établissement et la victime qui doit sortir de l'établissement, enfin toutes ces choses là qui sont des aberrations pédagogiques.
Parce qu'on fait ça se passe parce qu'on peut pas virer dans le fond celui qui est la planche pourrie quoi.
Bah en fait pour en avoir parlé avec les principaux des collèges publics, en fait on sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on gagne, donc techniquement ils peuvent le renvoyer, sauf qu'en fait ils risquent d'avoir encore pire et donc ils se disent bah tant qu'à faire, autant garder celui qu'on connaît parce qu'on a déjà pu établir une relation et tout. Donc si on renvoie celui-là, bah, en échange ils vont nous en renvoyer un autre.
Parce qu'à ce moment-là ils vous en ont un.
Bah, voilà. Donc finalement les trucs perdurent comme ça parce qu'en réalité il n'y a pas, à mon avis le vrai sujet c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui de ce que j'appellerais des internats éducatifs adaptés, c'est-à-dire un cadre pour les enfants qui sont inadaptés au cadre scolaire, qui sont trop violents, qui ont agressé.
C'est ce qu'on a appelé autrefois avec un méchant nom, c'était les maisons de correction. Quoi.
Oui, voilà. Et ce terme-là, forcément, joue pas en faveur de. Mais pour moi, c'est d'abord dans l'intérêt de ces enfants-là. Moi, je me souviens, il y a un de nos élèves c'était un contexte familial très difficile. La maman était toute seule, avait plusieurs enfants de plusieurs pères différents. Et le gamin, du coup, l'aîné, était vraiment parti. En vrille, et donc il devenait délinquant, quoi. Et donc il volait des trucs, il faisait n'importe quoi, il faisait vraiment il piquait des bagnoles, il forçait des portes d'établissements pour piquer des trucs et tout. Et la maman avait dit à l'assistante sociale, mais mettez-le en maison de redressement et tout machin. Et l'assistante sociale lui avait dit, mais vous pouvez pas aimer votre enfant si vous dites ça. Et ce qui était terrible, c'est que je pense que cette mère-là demandait ça, c'était vraiment par amour pour son fils. Quand on aime, on veut être exigeant pour que l'enfant puisse s'en sortir. Et donc il y a je pense une.
Vous savez, il s'était passé la même chose à New York il y a très longtemps, où le maire, c'était un homme qui s'appelait Giuliani, Et il avait repris, il y avait une criminalité pas possible à New York, il avait réglé le problème de la criminalité à New York à la demande de toutes les mamans de Harlem qui étaient venues le voir en lui disant « mais vous pouvez pas laisser nos enfants, nos garçons ». Et donc et il avait réussi ce coup-là. Donc c'était à la demande des maires que lui était devenu très sévère avec les avec les mauvais, quoi.
C'est... je pense que c'est un vrai enjeu, cette question de l'autorité, en tout cas de ne pas... en fait, on a un truc en droit français pour la justice pénale des mineurs qui s'appelle l'ordonnance de 46, qui est dans lequel il est écrit qu'il faut toujours faire primer l'éducatif sur le répressif. Or, c'est pas vrai que, enfin, le répressif fait partie de l'éducatif en réalité. La sanction éduque, et c'est une manière de respecter l'enfant que de lui dire tu es sanctionné parce que si on te sanctionne, tu es aussi absous. La sanction, elle t'absout de c'est parce que tu as été sanctionné. Maintenant, on passe à autre chose. Alors que si on ne te sanctionne pas, en fait, on considère que finalement, tu es à ton niveau de valeur, que tu ne peux pas faire mieux.
Et que c'est pas de ta faute.
Exactement.
Et que tu n'as pas de responsabilité individuelle. Donc, enseigner la responsabilité individuelle, ça me rappelle l'histoire de c'est une histoire qui s'est passée à Los Angeles. Et qui était, vous savez, un de ces hommes qui avait gagné beaucoup, beaucoup d'argent, qui était amateur, dans l'informatique aux États-Unis et tout. Et, bon, il avait gagné beaucoup d'argent, donc il a décidé de devenir professeur dans un collège à Watts, qui est l'endroit le plus pourri de Los Angeles, etc. Et il a commencé à avoir des résultats pas possibles, bien meilleurs et tout, parce que, il s'en occupait beaucoup, un peu comme vous, quoi. Et à ce moment-là, on a même fait un film sur lui, et l'éducation locale s'est révoltée contre lui parce que elle réussissait pas à comprendre pourquoi lui il avait des résultats et eux ils en avaient pas. Bah, c'est qu'il était assez autoritaire, c'est comme ça que ça se passe. Et...
Après, je pense que l'autorité, elle va avec la relation. C'est-à-dire qu'on peut faire, on peut être exigeant parce que on passe du temps avec les élèves, on les connaît, on joue au foot avec eux, on déjeune avec eux. Et souvent, je trouve qu'il y a une vision assez binaire dans l'éducation. C'est soit...
Est-ce que les mauvais garçons, c'est plutôt des hommes que des filles? Est-ce que les cas les plus difficiles, c'est des garçons?
Oh, je sais pas, non. Franchement,
Il y
a les deux. Ouais. Mais parce qu'en fait, les cas difficiles, c'est...
Est-ce que le fait que vous soyez un homme et costaud, ça aide?
Je sais pas. Sans doute qu'au collège, le fait d'avoir des vis-à-vis masculins pour des enfants, notamment dans des familles monoparentales, qui il y a un moment, ils ont besoin aussi d'un rapport à une figure masculine. Et c'est vrai qu'il y a.
Et vos professeurs sont plutôt hommes ou femmes?
Les deux.
Vraiment,
c'est très mixte. Mais c'est ça qui est rare, en fait, parce que aujourd'hui, c'est.
Il y a beaucoup, c'est surprenant.
Essentiellement
là.
Féminin.
Ouais.
Mais voilà, c'est vraiment cette double relation et je pense que c'est très important de pas se dire où on est dans quelque chose de pas exigeant et donc on va juste
une garderie
ou alors dans quelque chose de très vertical. Je crois pas aujourd'hui que l'école de la Troisième République très distante, très verticale soit applicable dans le contexte actuel. Il y a besoin de rejoindre aussi les enfants dans leur réalité, mais c'est pour les amener plus haut.
C'est toujours l'histoire que je raconte. Quand j'étais en Mathélem à Auch, il y a longtemps, en Mathélem, donc il y en avait un professeur de philo, vous savez, donc le philo au Mathélem, c'était pas très intéressant, ça. Et j'avais deux copains qui étaient tous les deux piliers au FC Auch, vous savez, qui étaient un peu costauds. des bons, quoi. Alors on faisait un peu les cons. Et le professeur de philo nous a dit, bon, les enfants, les trois là, je vous attends à la sortie du lycée dans le terrain vague et on va régler nos comptes. Et on a appris qu'il était ancien commandant de la Légion et ceinture noire de karaté, si vous voulez. Donc on n'y est pas allé, quoi. Mais il y avait un certain respect, si vous voulez, qu'il avait imposé presque physiquement, quoi.
Ouais. Ouais, c'est des méthodes qui sont un peu passées de mode.
C'est passé de mode, mais on n'y est pas allé.
Ouais, oui.
Ouais, ce que je veux dire, c'est qu'on s'est dit, bon, on va arrêter de le faire boire, quoi. On va aller voir la prof d'histoire géo, j'en sais rien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un âge chez les garçons, quand ils ont 17-18 ans, où ils sont pleins de testostérone et très très cons, quoi.
C'est marrant que vous disiez ça, parce que moi, j'ai un prof de philo aussi, quand j'étais en terminale, qui voulait nous apprendre ce qu'était le surmoi. Et il nous avait dit, on était sur le surmoi, il dit à un de nos camarades, levez-vous, maintenant vous mettez une gifle. Et on voyait, mais physiquement, dans les yeux de ce garçon, qui pouvait pas le mettre.
Non.
Qui Et donc il y avait un vrai, oui, il y avait. Bon alors je sais pas si ça aurait marché avec tous les élèves. Il avait choisi
il
un
fallait le choisir.
qui était pas du tout le premier de classe, mais qui était pas un méchant beau quoi. Mais bon c'était marrant ouais, comme.
Donc il y a ce côté aussi. En effet, je crois que les enfants cherchent à savoir quelles sont les limites. Donc ils poussent, et s'ils trouvent pas de limites, ben ils vont faire des bêtises.
Oui, tout à fait. Mais je vous dis, je pense qu'aujourd'hui, les limites, elles sont, elles, on est dans une société où en fait l'autorité ne peut plus s'imposer sans exemplarité. Et donc, elle doit passer par la relation.
Oui.
On peut.
C'est pas ce que vous dites.
On peut plus juste. Le statut du professeur ne suffit plus. On peut pas juste dire, je suis prof, donc tu m'obéis. Non, il faut. On peut le déplorer, on peut tout ce qu'on veut, mais c'est parce que le professeur passe du temps avec moi, me connaît, s'intéresse à moi, sait que j'ai.
Et que j'attends quelque chose de lui.
Et que voilà, du coup, je peux bâtir une relation avec lui. Je compte à ses yeux. Et donc, je peux du coup. Comprendre que si il me demande de me taire là, c'est pas juste parce que je suis un numéro, c'est que en même temps tout à l'heure on joue au foot et je lui mets un petit pont et ça l'a fait marrer et vous voyez et donc tout ça c'est et en fait c'est ça l'éducation, c'est d'abord une relation humaine.
C'est d'abord une relation humaine et très souvent fondée sur un échange d'expérience quoi.
Exactement.
C'est
et ça n'est pas du tout le prof sur un pied d'égalité avec l'élève, le professeur non. Bien sûr est un à le savoir, il le transmet. Mais ça n'empêche pas du tout de se mettre au niveau de l'élève. C'est pas précisément parce que il a un savoir que l'élève n'a pas qu'il doit le rejoindre.
Mais ça m'amuse beaucoup de ce que vous dites parce que ça correspond un peu à une partie de ma vie. Donc quand j'ai été pion aussi au lycée d'Auch, vous savez, parce qu'il fallait bien payer mes études. Et tous les ans, il y avait le match de rugby élève-professeur, vous savez. Et là, il y avait des comptes qui se réglaient. Hein. C'était une
histoire. Ah j'imagine.
Mais ça se passait
dans les règles de l'art.
Dans les règles de l'art.
Ouais, c'est
donc moi, je jouais avec les professeurs. Bon, ben, il y avait des. C'était des relations qui étaient sympas parce que on était sur le terrain en même temps. Si j'avais la balle, j'en recevais trois à la fois. Mais c'était comment dire ? C'était gratifiant, voilà. C'était gratifiant.
Et ça, c'était quand vous étiez en classe de lycée?
J'étais d'abord, j'ai passé mon bac à Mathelem, puis j'ai fait 2 ans de fac. Puis ensuite, je me suis dit, il faut que je gagne ma vie. Donc, j'ai été embauché comme pion au lycée d'Auch et j'ai terminé mes études en étant pion. Et donc, je suis retourné dans mon lycée, mais où j'avais été élève et puis je me suis retrouvé.
Ah oui, d'accord. Vous avez fait votre communal en France ou pas?
Alors non,
je sais que vous êtes né en Syrie.
Je suis né en Syrie et puis ma communale, ça a été une communale assez heureuse parce que mon père avait été nommé, il était officier, avait été nommé comme observateur des Nations Unies pendant la guerre civile en Grèce, qui a été un massacre dans les années 45 à 49. Les gens ne le savent pas, mais ça a été pire que la guerre d'Espagne. Et donc pendant 3 ou 4 ans, on était là sur une plage avec quand même ma mère qui nous faisait la classe.
Okay.
Qu'est-ce que j'ai aimé ça.
Ah, ça devait être sympa.
Mais quand je me suis retrouvé dans un collège de jésuites après.
D'accord.
La chute a été dure.
Ouais, c'est sûr que ça doit être un peu brutal quand même.
Ça doit être un peu brutal. Donc, c'est. Non, mais ça. Il n'y a rien de plus important que l'éducation.
Ah oui, je suis convaincu de ça.
Il n'y a rien de plus important dans un pays, etc. Rien de plus important. Parce que c'est l'investissement à long terme par excellence.
Oui, et puis c'est.
D'abord, il faut commencer à avoir des enfants, ça va sans dire, ce qui n'est plus tellement le cas. Mais ces enfants, il faut que chacun d'entre eux, il a un projet, il faut absolument. Qu'il le découvre et qu'il le puisse le cultiver quoi.
Ouais, tout à fait. Je pense qu'il y a un vrai enjeu de montrer à chaque enfant qu'il a une place à trouver dans la société. Et d'ailleurs, je pense que la question se pose d'autant plus aujourd'hui que les compétences, les savoir-être, les compétences relationnelles, me semble-t-il, vont être de plus en plus valorisées à mesure que pour les métiers intellectuels, on pourra se faire remplacer par des algorithmes. Pour des métiers plus manuels, il y aura des robots. Mais ce qui sera toujours irremplaçable, c'est cette capacité à créer du lien, à avoir du leadership, à emmener une équipe.
C'est ce que je dis beaucoup aux gens sur l'intelligence artificielle, et à prendre des décisions dans un monde d'incertitude. Parce que la machine, elle va avoir toutes les informations, mais il y a des tas de moments où vous n'avez pas le temps de prendre toutes les informations. Donc il faut prendre des décisions alors que vous n'avez pas tous les éléments.
Ouais.
Et ça, c'est quelque chose qu'une machine ne pourra jamais faire. Et donc il faut apprendre aux enfants à prendre des décisions dans un monde d'incertitude.
Ouais. Alors, dans l'incertitude, moi, aujourd'hui, on est quand même, c'est pas évident de les mettre dans ces situations-là. Mais par contre, déjà,
dans leur famille, ils sont déjà dans les situations d'incertitude.
Mais prendre des décisions tout court et surtout prendre des responsabilités, je crois. C'est-à-dire que moi, ce que je vois, c'est que il y a beaucoup de réussites éducatives qui sont liées à la confiance qu'on a fait à un moment à un gamin qui, au lieu de lui dire fais ci, on lui a dit j'ai besoin de toi pour ça. Je pense que tu peux m'aider à faire ça.
Et que tu en es capable.
Et tu en es capable, bien sûr. Mais de savoir qu'on a besoin de lui, qu'il a quelque chose à apporter. Je crois que c'est vraiment clé et c'est comme ça d'ailleurs qu'on donne à ses enfants des responsabilités.
Alors vous avez maintenant trois écoles, ce qui est énorme,
ouais.
Mais peut-être une quatrième.
Pas tout de suite la quatrième. Là, en fait, ce qui est difficile, c'est que quand vous ouvrez une école, vous devez le financer, grosso modo, quand vous l'ouvrez, ça coûte 250 000 euros la première année.
Oui.
Mais potentiellement, ça peut aller jusqu'à 800 000 euros si vous ouvrez le primaire et le collège. Donc en fait, il faut que notre capacité de collecte et de financement croisse.
Comment faites-vous? Vous faites appel aux dons, quoi.
Oui, c'est ça. Ouais.
Est-ce que vos financements sont plutôt locaux ou plutôt nationaux?
Nos financements sont un peu les deux. D'abord plutôt nationaux et on essaie de les développer localement maintenant. On essaye de demander en fait aux équipes qui ont monté les écoles de mobiliser des donateurs du coin, donc des entreprises, des fondations, des particuliers. Et ça c'est vraiment essentiel parce que c'est un levier de pérennité en réalité, parce que les financements nationaux, surtout les financements d'entreprises, ils peuvent varier, ils peuvent fluctuer. Mais par contre, les financements d'entrepreneurs du coin qui voient qu'en fait ils vont pouvoir recruter plus tard des gamins qui
oui,
ont des savoir-être,
et puis les entrepreneurs ils vont pouvoir recruter, etc. Mais aussi ils veulent le bien.
Et ils veulent le bien de leur territoire. Exactement.
Ils veulent le bien et eux-mêmes ils veulent agir pour le bien, quoi, si vous voulez. C'est un
oui, tout à fait.
Et donc vous n'êtes pas du tout confessionnel?
Non, complètement aconfessionnel, complètement apolitique. L'idée c'est vraiment de rejoindre les gamins là où ils sont et d'offrir les meilleurs outils pédagogiques à des gamins qui n'auraient jamais eu accès, en fait.
Qui n'auraient jamais à ça. Et là, chaque fois que vous en sauvez un, vous sauvez l'univers, quoi. C'est merveilleux. Et
ouais. Non, mais en vrai, c'est vrai que moi, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour un seul de ces enfants, tout ça vaut le coup, parce
tout
que
ça
c'est,
vaut
des
le coup.
Vies, c'est des vies qui
sont changées. Vous changez une vie, et puis lui-même, il saura qu'il faut rendre aussi. C'est pas tout prendre, il faut rendre aussi. Donc, se former, c'est très important. Et alors votre personnel, vous le recrutez comment? Ils viennent, c'est des gars qui sont passionnés par l'éducation, finalement.
Ouais, des gars et des filles. Il y a deux types de profils dans nos professeurs. Vous avez une partie, ce sont des professeurs qui ont passé les concours de l'éducation nationale, qui ont été professeurs dans le public ou dans le privé sous contrat pendant plusieurs années et qui cherchent une manière différente d'exercer leur vocation. Et donc ça, c'est plutôt des gens du coin. Et puis on a
des
aussi
gens du coin qui veulent dans le fond essayer d'aider leur région.
Voilà, exactement. Et une autre partie qui est un peu plus de la moitié, et ce sont plutôt des jeunes dips qu'on fait 3-5 ans dans le privé, qu'après une école d'ingé ou une école de commerce, et qui cherchent du sens et qui du coup avaient cette vocation d'enseigner, mais qui étaient un peu contrariés parce que ils se voyaient pas s'engager dans l'éducation nationale pour 40 ans, et ils se retrouvent en fait dans le profil plutôt d'entrepreneur social de nos professeurs. Et donc c'est ça qui leur parle et c'est comme ça qu'ils nous rejoignent. Et ma foi,
et
c'est
vous êtes
assez...
combien maintenant de professeurs?
Il doit y avoir une trentaine maintenant dans l'ensemble du réseau.
Oh, c'est pas mal ça. Donc, c'est quand même bien. Alors imaginons que ceux qui nous écoutent, et j'espère qu'il y en aura un paquet d'ailleurs, veuillent vous aider. Où est-ce qu'on vous trouve pour vous aider?
Alors, on peut nous envoyer des dons, soit sur notre site internet, donc excellenceruralité.org, il y a une page de dons.
Répétez-le.
Excellenceruralité.org.
Voilà.
Donc il y a une page de dons et on peut faire un don en ligne, on peut envoyer des chèques, des virements, ce qui peut beaucoup nous aider, parce que ça nous donne de la visibilité nos financements, c'est un prélèvement automatique, si vous voulez.
Ça vous donne un budget que
exactement,
vous pouvez compter.
Comme ça, on a plus de visibilité sur la ligne. Ça, ça peut vraiment nous aider.
Donc,
ça peut
Excellence
pas...
Ruralité.
Voilà, Excellence Ruralité.
C'est un beau nom d'ailleurs.
Ouais, c'est gentil. Mais oui, je suis d'accord. Je pense que on a changé ce nom. D'ailleurs, on s'appelait Espérance Ruralité au départ.
Ouais.
Et c'est un beau nom aussi, Espérance Ruralité. mais on a voulu passer de espérance à excellence au moment du Covid, après le Covid, après le, pardon, pas le Covid, après le, les Gilets jaunes, parce que on voulait montrer que il y avait des talents surtout. On voulait montrer qu'il y avait des talents dans nos territoires et que l'avenir de cette France périphérique pour nous, ça n'est pas de dépendre des métropoles et de subventions, c'est vraiment de s'appuyer sur les talents de sa jeunesse. Et donc il y a une excellence dans ces territoires-là et on veut aller la chercher et la faire connaître.
Donc excellence ruralité. Et la deuxième façon, c'est quoi?
Et la deuxième façon, eh bien, on peut prendre rendez-vous. S'il y a des gens qui veulent aussi visiter des écoles, ils peuvent tout à fait venir sur le site internet ou nous écrire. Voilà, on peut se rencontrer, on peut tout à fait.
Parce que ce que vous faites, c'est tout à fait intéressant. C'est-à-dire, c'est une tentative, un effort qui vient de la base. Et moi, je crois tout à fait, si vous voulez, ce qui vient de la base, ça correspond, quelqu'un a analysé des besoins, si j'ose dire, de son village, quoi. Puis à partir de là, il monte quelque chose et ça peut devenir énorme.
Ouais, c'est exactement comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que moi, j'ai créé la première école dans l'Aisne, mais depuis, c'est des gens qui nous contactent en disant j'ai vu ce que vous faisiez. Moi, je pense que ça serait pertinent pour mon territoire. Comment je peux faire la même chose?
Comment je peux faire la même chose?
Et donc, on les accompagne pour les aider à monter les projets, pour les aider à...
Et alors là-dedans, comme vous n'êtes pas confessionnel, est-ce que vous pouvez demander, comme si vous étiez dans l'enseignement libre, une aide de l'État ou...
Ben, on peut demander un passage sous contrat, donc pour avoir...
Et alors, quelles seraient les contraintes si vous faisiez ça? Parce qu'ils vont vous casser les pieds, il y aura des contraintes.
Oui, il y a deux types de contrats, en fait. Vous avez le contrat d'association qui est le plus répandu, mais qui est le plus contraignant parce que, en fait, vos professeurs, vous pouvez plus les recruter, en grosso modo, parce qu'ils deviennent des salariés de droit public, et donc ils sont affectés en fonction du mouvement de l'éducation nationale, donc en fonction de la promotion interne de l'éducation nationale à l'ancienneté, et donc vous pouvez éventuellement les refuser, mais vous devez d'abord avoir une bonne raison pour les refuser, et donc à mon avis un vrai sujet, d'autant que est lié à cette difficulté-là, une deuxième à mon sens, qui est le fait que le directeur n'est pas le supérieur hiérarchique du professeur, c'est l'inspecteur d'académie. Et donc c'est à mon avis un vrai problème parce qu'en fait il n'y a pas de management possible.
Vous abandonnez la direction.
Voilà. Donc ça, on souhaite pas aller dans cette direction-là. En revanche, il y a le contrat simple, qui est un contrat qui est assez peu employé, qui concerne que 5% des cas, mais qui pour l'instant est limité au primaire. Mais qui a la grande vertu de permettre à vos professeurs de conserver un statut de droit privé. Et donc, c'est vous l'employeur des professeurs. Vous pouvez les recruter, vous pouvez les augmenter, les manager.
C'est-à-dire que vous gérez, en quelque sorte, la rémunération de vos professeurs aussi.
Alors, vous pouvez mieux les payer, oui. Alors, vous serez toujours... Le contrat vous donnera une rémunération, d'ailleurs, qui ne sera pas très élevée, parce qu'en fait, ils seront considérés comme des vacataires par rapport aux standards de l'éducation nationale. Mais... vous avez cette base que vous pouvez augmenter en fonction de votre politique salariale. En vrai, ça change tout. C'est-à-dire que vous êtes vraiment le manager de vos professeurs. Et c'est, à mon avis, la clé de ce qui manque aujourd'hui dans notre système éducatif. C'est-à-dire que il manque un échelon de management intermédiaire, en gros. Il manque un chef d'établissement qui pilote les réformes, qui pilote la reconquête du niveau scolaire, qui pilote tous ces projets-là au niveau de l'établissement. Et aujourd'hui, il ne peut pas le faire. Donc, on a un canard sans tête. Quoi.
On a un canard sans tête, mais mes enfants ont été en grande partie élevés au lycée français de Londres. Je connaissais très bien le proviseur du lycée français de Londres à un moment, qui ensuite est devenu le proviseur d'Henri IV. Donc, oui, c'était un homme quand même. Et il délirait de bonheur, c'était un homme de gauche. Il délirait de bonheur tout le temps parce qu'il pouvait gérer son établissement, choisir les professeurs, etc.
Ah, bien sûr.
Il disait, c'est le pied. Il était très, très content.
Mais. Sauf que c'est du bon sens, en fait. Quand on a un projet, on doit pouvoir le conduire.
Voilà. Mais c'est quand même curieux, si vous voulez, qu'on ait essayé de déshumaniser l'enseignement à un point tel que celui qui est responsable d'un établissement, dans le fond, on l'enlève la responsabilité, quoi.
Oui, et ce qui est d'autant plus pernicieux, c'est que, en plus, ça se fait, à mon avis, au détriment des professeurs eux-mêmes, parce qu'en réalité, du coup, ils n'ont pas de retour sur leur travail, ils n'ont pas de suivi, ils n'ont pas d'accompagnement.
Donc, ils dépendent uniquement du syndicat à ce moment-là.
Ils dépendent, en fait, de l'inspecteur d'académie qui passe une fois tous les 7 ans, en moyenne, donc en fait, autant dire jamais, et qui, quand il passe, ne passe pas du tout comme un manager à qui vous avez une relation de proximité, qui veut votre progression. Mmh. Il arrive, c'est une inspection-sanction. Enfin, donc, en fait, ça met tout le monde dans un système qui est très, très défiant.
Et très peu valorisant. De méfiance et pas de confiance.
Exactement.
Dans un cadre un peu similaire, j'ai été à Londres où il y a une grande conférence qui se réunit tout le temps pour essayer de faire monter des initiatives comme ça, d'un de mes amis qui a gagné beaucoup d'argent dans sa vie. Et il nous a présenté l'année dernière une professeure qui était à moitié indienne, à moitié de Guyane, vous voyez, donc était, et qui a pris une école dans le quartier le plus pourri de Londres et qui a introduit une discipline de fer. Et maintenant, il y a une liste d'attente pour y aller. Elle essaye de développer ses écoles partout. Donc, il me semble que dans la société, il doit y avoir, je sais pas combien, 5 à 10% des personnes, facile, qui auraient comme vocation de s'intéresser aux enfants vraiment pour les aider. Mais le monde que vous décrivez de l'éducation fait que ils peuvent pas, dans le fond, s'y consacrer autant qu'ils le voudraient, ou alors on les barre, on les... Et donc, une fois de plus, vous montrez qu'un système libre est plutôt mieux qu'un système contrôlé, quoi. C'est...
Oui, moi, je pense que... Je pense que l'éducation nationale a une mission qui est importante, et je suis pas de ceux qui considèrent que
c'est ce qu'on appelle autrefois l'instruction publique d'ailleurs.
Voilà, je suis pas de ceux qui considèrent qu'il faut tout libéraliser et tout machin. Par contre, je pense que il faut qu'il puisse y avoir un espace de liberté pour des projets innovants. Et aujourd'hui, malheureusement. Quand vous montez une école, vous pouvez le faire que pour les enfants de bonne famille, parce qu'il faut qu'ils soient capables de la payer. Parce qu'une école avant de passer sous contrat...
C'est là où est le scandale.
Et en fait, c'est là où il y a une forme de, à mon avis, d'injustice, c'est que le système est pensé pour que le privé ne serve qu'aux riches. Donc finalement, tout le monde est content, je veux dire.
Ce qui n'était pas vraiment le cas, par exemple, en Bretagne autrefois, où il y avait des écoles locales qui étaient aussi chrétiennes. Mais c'est vieux, mais on voit bien qu'à Paris, si vous voulez, aujourd'hui, ben, les seules bonnes écoles, c'est des écoles religieuses, et qu'il faut maintenant, il y a un délai de 5 ans pour y rentrer, etc. Et c'est pas normal, c'est odieux.
Et en fait, tout ça est lié au fait qu'il y a en fait une règle tacite de 20% maximum de contrats.
Un numerus clausus.
Et ça, pour le coup, moi, je suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'on devrait pouvoir naturellement ouvrir des établissements qui soient développés. Et d'ailleurs, c'est à mon avis parce que de fait, il y a une forte concentration de CSP+ dans l'enseignement privé, mais l'enseignement privé pourrait très bien répondre à ces critiques légitimes, que si on lui donnait la possibilité d'ouvrir plus d'établissements, il aurait certainement aussi plus de mixité sociale. Mais moi, je pense qu'il y a un vrai enjeu à
ce
niveau.
C'est pas tellement de mixité sociale.
Pas de mixité, mais
d'offrir à ceux qui n'ont pas la chance d'avoir des parents qui ont gagné de l'argent, des possibilités d'éducation qui soient au moins aussi bonnes que celles qu'il y avait.
Quand je dis mixité sociale, c'est-à-dire que leur IPS, leur niveau social moyen, soit moins élevé. Parce que je ne suis pas, encore une fois, pareil, je ne suis pas convaincu que la mixité sociale soit possible au niveau de l'établissement systématiquement. Et l'enjeu, ce n'est pas, à mon avis, uniquement de s'assurer pour qu'il y ait une composition parfaitement mixte dans chaque établissement. L'enjeu, c'est que même dans des territoires, parce que globalement, les gens ne vivent pas forcément au même endroit,
mais
même dans les territoires où il y a de très grosses difficultés sociales, l'école est une valeur ajoutée auprès de ces enfants-là. Et c'est ça qui est terrible. Moi, si c'est pour que le niveau ne soit pas nécessairement meilleur pour les enfants de milieux favorisés et que on ait
que tout le monde soit médiocre.
Voilà, c'est pas le sujet. L'enjeu, c'est comment est-ce que même dans les territoires difficiles, on va avoir une valeur ajoutée de l'école. Et c'est un peu ça, à mon avis, le piège dans cette obsession de la mixité sociale, c'est qu'en fait, on veut sous-traiter aux enfants de milieux plus favorisés les progrès des enfants de milieux défavorisés. Mais en réalité, l'école a une valeur ajoutée en elle-même. C'est pas les élèves uniquement qui vont avoir une valeur ajoutée, c'est les professeurs. C'est ça qu'il faut retrouver,
cette ambition. C'est le mélange des professeurs, le fait qu'il y ait plusieurs professeurs et la relation entre les professeurs et les élèves. C'est là où on apprend, dans le fond, à agir en société, l'école. Hein.
Oui, tout à fait.
Et est-ce qu'il y a des internats?
Nous, on n'en a pas.
Est-ce que ce serait une bonne idée?
Moi, je pense que c'est pas une mauvaise idée, mais c'est compliqué à mettre en place. C'est très lourd financièrement.
Et puis c'est très cher aussi, j'imagine.
Voilà. Et en plus, je pense que c'est pas très culturellement répandu dans les territoires où on intervient. Donc je suis pas sûr que ce soit un axe de développement pour nous. Je pense que c'est très 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 compliqué à mettre en place. Mais précisément, nous, on s'adresse aux enfants des territoires dans lesquels on intervient.
Vous établissez localement et vous intéressez aux enfants locaux.
Exactement. C'est ça notre raison d'être. Et donc, un internat, ça ferait venir des enfants de plus loin. Donc, on perdrait ce lien avec le territoire. Après, on pourrait avoir quelques places d'internat pour des enfants.
Et quelle est la réaction des hommes politiques devant ça, quand ils vous voient des locaux, des maires, etc.?
Ah, ils sont plutôt bienveillants. On a des très bonnes relations avec la mairie dans les établissements, les territoires où on intervient.
Et comment peuvent-ils vous aider? Ils peuvent pas vous aider financièrement.
Pas beaucoup, en réalité, parce qu'ils ont pas le droit de faire de subventions aux écoles. Ils ont pas le droit de. Ils peuvent nous mettre à disposition des locaux comme ils le font aux autres écoles du coin pour des infrastructures sportives par exemple. Généralement, ils sont nos bailleurs dans deux cas au moins, mais ça se fait au prix du marché parce qu'ils ont pas le droit de le faire moins cher parce que sinon c'est une subvention déguisée. Mais en fait, ils peuvent surtout nous aider à nous implanter localement, à nous faire connaître.
Ce qui est intéressant, c'est qu'en Suède, vous savez, ils ont, en 92, etc., ils ont changé un peu le profil de l'éducation nationale, qui était une grosse pyramide avec des trucs un peu comme en France, quoi. Et ils sont passés au ticket que présentait l'école. Et ça a deux avantages. Vous voyez, le premier, c'est que, les Suédois ont répondu à trois questions. Est-ce que tous les enfants doivent être bien éduqués? Oui, bien sûr. Est-ce que ça doit être payé par les impôts? Oui, bien sûr. Est-ce que ça doit être fait par un personnel administratif qui ne fait que ça? La réponse a été peut-être pas. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça a ouvert l'éducation à des tas de gens. Et ça a sorti l'argent des écoles sans, puisque ceux qui distribuent ces tickets-là en Suède, c'est les municipalités. Et alors, il se passe un phénomène assez intéressant. C'est que s'il y a une bonne école qui se monte, tout le monde peut installer des écoles en Suède. Hein. S'il y a une bonne école qui se monte, le prix de l'immobilier monte beaucoup.
Oui, forcément.
Forcément, parce que les parents se...
Nous, on a vu des familles s'installer à l'affaire pour l'école.
Pour l'école, ouais. C'est ça. Donc, le prix de l'immobilier monte beaucoup. Et comme les impôts locaux viennent de l'immobilier, si vous voulez, vous avez les villes qui montaient. Donc, les mauvaises écoles baissaient, les bonnes écoles montaient. Donc, ça introduisait une concurrence dans l'école sans introduire l'argent. Ce que j'ai trouvé une idée assez intéressante.
Ouais, c'est intéressant, c'est clair. Mais je pense que je pense qu'il y a un vrai équilibre à trouver. Et d'ailleurs, je suis pas sûr qu'on était dans un système aussi rigide autrefois. Je pense que les textes de la loi Debré, par exemple, pour les contrats laissent bien à l'origine. D'ailleurs, les crédits pour monter une école, c'était des crédits d'engagement. C'est-à-dire qu'en fait, c'était on ouvrait une école et on avait le contrat d'office. Et puis c'est répandu cette idée, la règle du 80-20, c'est-à-dire que qui est une loi non écrite, quoi, qui est une coutume, mais qui est considérée comme un totem intouchable.
Pourquoi?
Parce que
vous avez une partie de l'éducation nationale.
Oui, parce que
qui est dans plutôt à gauche et qui dit non.
Oui, parce que ce serait considéré comme une concurrence.
Voilà, la concurrence.
Alors qu'en réalité, aujourd'hui, les élèves dans le privé sous contrat coûtent moins cher que dans l'éducation nationale. Donc il y a des fractures de ce côté-là. C'est pour ça que moi, je pense que l'enjeu, c'est juste de dire comment on libère un peu les énergies, comment on permet aux gens de créer des projets pour les enfants de milieux défavorisés, parce qu'encore une fois, tout est coincé par le fait qu'aujourd'hui, le privé, c'est pour les riches. Mais en réalité, on pourrait très bien faire différemment. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a plein de professeurs qui veulent monter des... Enfin, ce qui anime un prof, en réalité, c'est pas de créer des écoles pour les enfants les plus favorisés. C'est plutôt de transmettre la culture à des gamins qui n'ont pas reçu naturellement la maison.
C'est qu'il a un côté, un professeur, si vous voulez, il a un côté quand même... messianique, si je veux dire. Missionnaire, voilà,
ouais.
C'est le mot que je cherchais.
Ouais, ouais.
Missionnaire, il cherche... Il est dans ce métier parce que il cherche à transmettre.
Exactement. Et ça, je pense que
c'est très sous-estimé à l'heure actuelle.
On étouffe beaucoup cette énergie-là. En fait, toutes les énergies organiques qui sont pas des normes, des règles, des cadres, des procédures, mais qui sont d'abord l'engagement des personnes, leur dévouement. Dont il faut pas abuser, bien sûr, mais sur lequel il faut compter, parce que c'est ça qui fait les relations, c'est ça qui fait qu'une famille se sent accueillie dans une école,
qui fait que l'enfant se sent identifié. Je reviens toujours à Camus et à Monsieur Germain. Pour ceux qui nous écoutent, ils devraient un jour lire s'ils ont le temps, la lettre que Camus avait écrite à Monsieur Germain quand il a reçu le prix Nobel.
Il y a un institut Louis Germain, d'ailleurs, qui s'est créé qui est vraiment super.
Qui est vraiment très bien, mais si vous voulez, cette lettre que Camus, c'est tout professeur rêve de recevoir des élèves qu'il a eu, quoi. C'est...
Bah, tout professeur rêve d'avoir Camus comme élève aussi, je pense.
Oui, mais en même temps, Camus, ça l'intéressait pas tellement. Il voulait jouer au football avec ses copains arabes à l'époque. C'était, donc lui, là, le professeur lui a dit, mais non, tu peux faire mieux, quoi. C'est...
Non, donc, c'est clair.
C'est un moment, dire à un enfant, tu peux faire mieux. Moi, je me souviens, moi, j'avais mon grand copain quand j'étais à Auch, justement, qui était un type tout à fait sympathique. Et qui était très, très, très brillant, hein. Et, pour lui, il n'y avait rien de plus important dans la vie, parce qu'il arrivait d'un milieu très, très, très défavorisé, qu'instituteur. Personne ne pouvait être plus haut qu'un instituteur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'essayais de lui expliquer.
C'était un notable,
C'était un notable, mais j'essayais de lui expliquer qu'il y avait peut-être des possibilités ou autres un peu plus haut, oui, je veux dire. Parce que c'est ce qui barre aussi parfois les milieux les plus défavorisés, s'ils ne sont pas au courant des opportunités qui sont plus hautes. Et le rôle du professeur, c'est d'un peu de lui dire, mais tu pourrais peut-être, je sais pas, on va essayer de te faire entrer dans une université en Angleterre, tiens, par exemple. Tiens, ça va... Ce que je veux dire, c'est ça arrive pas tout le temps. Non, mais ça peut arriver.
Ouais, et puis après, s'il veut être professeur, moi, je trouve que c'est un très beau métier. On a nos anciens élèves qui veulent devenir professeurs dans nos écoles. Je trouve que
c'est le bonheur total, ça. Voilà, ça, c'est le bonheur total, ça. Ouais, c'est... Donc, écoutez, je suis extrêmement touché que vous soyez venu me voir. Excellence rurale.
Ruralité,
pas loin. Il faut absolument que vous... Nous, on a une communauté, je crois, de 415 000 personnes qui sont abonnées à notre... Ce qui est bien.
Ouais, c'est bien.
On ne demande jamais rien. Hein. On fait parler, d'essayer d'éduquer, c'est ce qu'on fait comme beaucoup. On n'en a rien, mais... Pour une fois, je vais demander quelque chose. Si vous pouviez aider notre ami Jean-Baptiste à développer ses écoles, je crois que ça sera beaucoup mieux que de voter pour n'importe quel candidat aux élections présidentielles. Ce que je veux dire, c'est beaucoup plus utile et c'est beaucoup plus...
C'est plus concret, en tout cas.
C'est plus concret. Si vous imaginez que vos dons sortent un enfant d'une situation difficile pour en faire un citoyen convenable, c'est ce qui pourrait nous arriver de mieux à tous, quoi. Donc vraiment, je suis touché de voir un homme de votre âge, de votre génération et tout, prendre ce risque personnel.
Ouais, vous savez, je pense que je reçois aussi énormément, et c'est très gratifiant aussi, je vous ai parlé de tous les retours qu'on a des parents, de l'aventure humaine aussi qu'on vit dans ces établissements, dans cette équipe. Donc,
mais vous montrez qu'on peut avoir une vie tout à fait pleine, tout à fait réussie, tout à fait sans automatiquement passer par une grosse fortune, vous voyez ce que je veux dire?
Oui, c'est sûr. Ça,
on est devenu d'une situation complètement idiot. On juge les gens par leur capacité à gagner de l'argent. Mais moi, j'avais un père qui était officier, qui était un ami énormément intelligent, que j'ai adoré toute ma vie. Ben, on a été fauchés tout le temps. Puis voilà, quoi. Mais on s'en foutait.
Ouais.
Je crois pas que dans la vie d'un enfant, que ses parents gagnent beaucoup d'argent soit un truc extraordinairement important, quoi.
Ah non, je pense pas du tout. Non, ce qui compte, c'est toujours.
C'est que vous ayez du temps.
C'est l'amour, hein, c'est toujours.
Voilà, c'est le. Et l'exigence, voilà, l'exigence. Que vous ayez une exigence pour lui. Ouais. Ça, c'est au poil.
C'est les deux.
Ça me fait plaisir, on pouvait pas savoir.
Bah écoutez, mais merci en tout cas.
Merci Jean-Baptiste, et on va se mettre au travail pour vous aider.
C'est gentil, merci infiniment.